Philippe.
Merci. Alors, je vais commencer par justement... Dans le titre, il y a marqué multidisciplinaire. Je sais bien que Jean-Paul, il vient de dire qu'il ne fallait pas avoir de jugement de valeur sur le niveau d'intégration, etc. Mais bon, quand même, quelque part, je m'expliquerai un petit peu à la fin sur l'usage de ce mot. Alors, on est un certain nombre. Donc, Pascal et moi avons fait la synthèse de ce qui a été produit sur ce thème-là dans le cadre du GIS. Mais bon, vous voyez, il y a une liste de co-auteurs là, qui montre qu'on n'est pas les seuls à avoir travaillé sur le sujet. Alors d'abord, de quel objet parle-t-on exactement ? Ici, on ne va pas balayer les extrêmes. Alors les extrêmes, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'éventuellement, c'est un événement rare ou que c'est un événement dont les conséquences sont particulièrement visibles. Ici, on ne va pas balayer tout. On va balayer surtout ce qui a été étudié pendant les 7 années au GIS. Donc essentiellement, les questions autour des tempêtes, des précipitations intenses, des sécheresses et des canicules. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? On en parle parce que, justement, ça, c'est la face... Alors, la face visible, en fait, la face visible, c'est déjà le caractère assez impressionnant du phénomène lui-même, déjà, donc de cet aléa météorologique. Et puis, ce qui est aussi perceptible, c'est l'impact que cet aléa peut avoir sur la société. Et donc, ici, ce sont quelques graphes qui sortis d'un rapport qui a été fait sur l'état de l'Europe, on va dire, en matière d'événements extrêmes, donc par Soares en 2012, et qui montre qui répartit ici un petit peu donc donc je vais prendre ça effectivement pour pouvoir me déplacer. Donc qui présente ici donc la répartition entre différents types d'extrêmes, donc soit les sécheresses, les canicules, donc les extrêmes de température, les tempêtes, les feux, les tremblements de terre, les crues, les volcans. Et donc, on voit qu'en Europe, on est particulièrement affecté en termes à la fois d'occurrence, d'impact économique et aussi de population affectée par ces crues associées à des précipitations extrêmes. Vous voyez qu'ici, les sécheresses se répartissent de façon différente suivant que l'on regarde leur occurrence, que l'on regarde donc l'effet que ce phénomène a sur l'économie et sur la couverture géographique que ce type d'événement que ce type d'événement couvre. Pour information, ici, les 8% représentent environ 100 milliards d'euros sur 30 ans. Et puis, alors pourquoi est-ce qu'on en parle aussi ? On en parle parce qu'il y a un contexte qui est celui du changement climatique. Ça, c'est le cœur de ce qui soutenait la conception même du GIS. Si on prend donc un état A qui correspondrait donc à l'état présent, alors ici, comme j'ai pris ça donc d'une présentation faite par un Américain, tout est en degrés Fahrenheit, mais ça, vous aurez vite fait la conversion. Donc ici, vous prenez, donc c'est une distribution de température donc qui correspond à un état moyen ici de ce climat A, donc 50 degrés Fahrenheit, je vous laisse faire la transformation. Et puis, tout simplement, ce climat se déplace donc change et donc se déplace jusqu'à un état B qui correspond à un état moyen de 55 degrés Fahrenheit. Très bien. Alors, si on regarde un petit peu la différence qu'il y a entre ces deux courbes, on voit bien que l'essentiel ici de cette zone-là reste identique. Donc, la plupart du temps, donc, les valeurs restent identiques. Et là où ça bouge beaucoup, c'est essentiellement sur les extrêmes que l'on a, et donc les plus grands changements attendus sont sur les extrêmes qui peuvent donc ici atteindre des variations de l'ordre de 200%. Et bien sûr, ça nous intéresse particulièrement, et ça a fait l'objet dans le dernier rapport du GIEC d'une édition spéciale liée justement à l'impact de ces extrêmes, enfin leur relation avec le changement climatique. Alors les questions que l'on s'est posées, en tout cas c'est la synthèse que l'on a faite de tout ça. Bien sûr, c'est une revisite, revisite a posteriori. Hein. On a réécrit l'histoire, mais quelque part, on retrouvait l'ensemble de ces questions dans beaucoup de projets. Donc, la première question, c'est d'abord comment observer et modéliser donc, des événements qui sont rares. Alors, le potentiellement catastrophique n'est pas neutre ici. À quelles échelles spatiales et temporelles peut-on étudier ce type d'événement, là aussi ? on verra que tous les extrêmes n'ont pas une extension spatiale et une évolution temporelle identique. Quels sont les mécanismes physiques, chimiques et biologiques qui participent à la formation au cycle de vie de ces événements extrêmes? Et enfin, une des questions fondamentales, enfin, qui nous est posée particulièrement, et il y a encore peu de temps avec les pluies catastrophiques qui sont déroulées à Cannes et le buzz médiatique qu'il en est résulté, eh bien, il n'y avait pas un journaliste pour demander, mais est-ce que ces pluies sont dues au changement climatique? Donc la question qui est de comment est-ce qu'on peut détecter, attribuer donc un événement extrême au changement climatique, c'est forcément une question qui nous revient de plus en plus, de façon de plus en plus forte. Alors, comment identifier et classer les événements rares? Alors ici, on ne va pas regarder tout dans les détails, on essaye de voir les choses de façon un petit peu... Mais le problème ici, c'est le problème de la rareté. D'accord, c'est-à-dire que dès qu'on essaye de comprendre un petit peu comment s'il y a des sortes de mécanismes un petit peu systématiques, persistants, qui pilotent un événement extrême, le problème, c'est de les identifier, faire ressortir ce signal du bruit, alors qu'on n'a pas beaucoup d'événements, justement, pour pouvoir le faire. Donc, il y a eu des avancées méthodologiques durant le GIST, avec la première idée de dire que certains événements extrêmes ont une certaine extension spatiale, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qui se passe à l'endroit où on se trouve, et puis aussi une certaine durée à partir duquel on peut considérer cet événement comme extrême. Donc là, il s'agit, le cas le plus symptomatique, c'est la canicule ou la sécheresse, où là, eh bien, si on dépasse pendant quelques heures 40 degrés en un point de la capitale, eh bien, ça, on ne pourra pas forcément dire que ça, c'est une canicule. D'accord, le système le verra à peine. En revanche, si ça dure et si ce phénomène se produit sur une grande étendue, eh bien là, on va vraiment pouvoir parler de canicule. Donc, une des premières avancées méthodologiques pour essayer de détecter et donc de classifier, de voir quels sont les mécanismes sous-jacents à ces événements extrêmes, ça a été donc de pouvoir les déterminer. Alors, une canicule, c'est un seuil de température qu'on dépasse. Donc ici, statistiquement, le 95e quantile, c'est-à-dire que c'est la température au-delà de laquelle, finalement, on ne trouve des valeurs supérieures à celles-là que dans 5% des cas, donc quelque chose d'assez faible. Une certaine cohérence spatiale, donc là, on a pris une certaine fenêtre spatiale ici, qui couvre une région assez importante, et puis on considère que si une fraction importante de la surface de cette fenêtre est impactée par un excès de température de ce type-là, eh bien on peut commencer à dire là, effectivement, on se retrouve dans une situation particulièrement inhabituelle. Et enfin, si en plus on dit que ce truc-là doit durer un certain nombre de jours, eh bien on va se retrouver avec une définition d'un objet que l'on va appeler canicule et pour lequel l'identification va devenir beaucoup plus robuste. Et à partir de là, eh bien on est capable de sortir des mécanismes qui sous-tendent ces événements extrêmes. Donc, suite à ces méthodes un petit peu frustres, mais finalement qui se sont avérées assez robustes d'identification, eh bien on était capable de déterminer que dans la région euro-méditerranée, il existe un certain nombre de schématypes, de patrons types de canicules. Et toutes à part ici les canicules dites ibériques, eh bien tous sont associés à des anomalies anticycloniques bien connues. Mais en tout cas, voilà, le patron a pu être déterminé. Et à cela, on a pu regarder aussi les conditions hydrologiques qui sous-tendent ces canicules, avec des conditions donc particulièrement favorables. Ici, pour les canicules d'Europe de l'Ouest, eh bien, ces canicules sont très souvent précédées d'une sécheresse ici sur la péninsule ibérique. Mais en fait, ici, donc, vous avez la même chose pour la situation qui se trouve, qu'on appelle Eastern Europe. Ici, vous voyez que lorsque le centre actif, on va dire, de la canicule se trouve ici en Europe centrale, eh bien, cette canicule est précédée d'une anomalie, d'un déficit hydrique, c'est-à-dire d'une sécheresse printanière, donc qui va constituer des éléments, on va dire, parmi les éléments importants de la canicule, un élément rendant favorable, on va dire, cette anomalie de température donc estivale. Alors ça, c'est adapté aux extrêmes qui ont une certaine cohérence spatiale et temporelle, mais qui n'est pas forcément, donc là, qu'on a pu depuis adapter aux sécheresses, mais qui n'est pas forcément adaptable à des phénomènes beaucoup plus locaux cette fois-ci. Donc là, on rentre dans des extrêmes qui sont plus, qui n'ont plus de temporalité de plusieurs jours et de cohérence spatiale, de couverture spatiale qui recouvre plusieurs régions françaises, par exemple. Là, on est dans le phénomène, typiquement le phénomène d'il y a pratiquement un mois, où là, tout se retrouve localisé sur quelques kilomètres carrés et l'événement ne dure qu'une heure ou deux. Et là, il s'agit particulièrement donc des précipitations intenses. Alors là, il y a des travaux qui nous viennent de la communauté, on va dire, des mathématiciens, qui travaillent donc, sur ce type de classification. Donc on est sur un registre, enfin sur un objet, sur une démarche identique à ce que je vous ai proposé, mais pour lesquels cette fois-ci les outils existants ne fonctionnaient pas. Donc les outils de classification existent depuis longtemps, hein, ça il n'y a pas de souci, on sait classer des cartes, on sait classer beaucoup de choses, mais le principe encore une fois de base, c'est qu'il faut beaucoup d'échantillons pour pouvoir classer, et là on est donc dans des événements où il y a peu d'échantillons pour pouvoir classer. Et là ici ce que je montre, c'est des résultats donc, qui ont été obtenus dans le projet paper du GIS, et qui montrent ici une classification. Alors qu'est-ce que ça représente? Chaque couleur représente une typologie de précipitation et leurs caractéristiques spatiales, c'est-à-dire qu'on a des groupes de précipitations qui, pour des conditions météorologiques particulières, vont se développer particulièrement préférentiellement dans cette région ou dans cette région ou dans cette région, etc. Et donc ça, ce sont des méthodes qui ont été développées sur la base de la théorie des événements extrêmes, alors que ça, ce sont les méthodologies, c'est une carte issue de méthodologies plus classiques, donc qui repose bien sûr sur l'hypothèse que beaucoup d'échantillons sont disponibles. Et on voit aussi donc une classification qui n'a plus grand-chose à voir avec celle que l'on a ici, mais c'est surtout qui est beaucoup moins cohérente spatialement. On voit pas mal d'incohérences, donc des points qui, ici, sont totalement isolés, par exemple sur la partie Bretagne, et puis, ou bien ici, sur le sud de la France. Donc, en termes de robustesse de classification, donc des améliorations assez significatives ont été apportées par les travaux du GIS pour pouvoir classer ces événements. Alors maintenant, encore une fois, on se retrouve toujours dans le problème, dans la problématique de la rareté, finalement, des jeux de données dont on dispose pour pouvoir caractériser ces événements. Donc, un des projets du GIS, qui s'appelle RENASEC, a porté justement sur l'implication des historiens dans cette problématique, avec l'idée d'aller rechercher et d'analyser à partir donc de recensements. La France est particulièrement adaptée pour ça, avec une centralisation des informations, une écriture systématique des observations dans des registres. Eh bien, donc, les travaux ici ont permis de quantifier le nombre de tempêtes, le nombre de sécheresses, le nombre de crues lors des dernières centaines d'années. Et alors, avec cette fois-ci une analyse qui peut être intéressante. Donc ici, on voit, donc ça, c'est le nombre de tempêtes en France, donc ici, depuis 1700 jusqu'à nos jours. Donc rien de particulièrement remarquable, si ce n'est qu'on a l'impression d'avoir un pic entre 1950 et 2000, et ça, c'est assez contradictoire avec, par exemple, des rapports de Météo France qui disent qu'il n'y a pas, a priori, d'augmentation de l'occurrence de tempêtes lors des dernières décennies. Et notre interprétation de ça, c'est qu'en fait, ici, nous avons une démarche bottom-up, ici, pour pouvoir caractériser ces événements, c'est-à-dire que ce que l'on va regarder, c'est aussi bien des mesures, bien évidemment, existantes qui ont été répertoriées, mais aussi l'approche ici est une approche, bien évidemment, homogène sur toute la période, c'est-à-dire essentiellement la collection plutôt de l'impact de ce type d'événement sur la France. Donc ici, il existe probablement une dichotomie entre la catastrophe socio-économique elle-même produite par l'événement. Ça aussi, ça a été l'objet du débat il y a un mois. L'anthropisation rend probablement, donc augmente la vulnérabilité de nos sociétés à ce type d'événement. Donc probablement ici une dichotomie entre la catastrophe socio-économique et l'extrême météorologique lui-même, donc avec un signal qui lui, par contre, tente à faire croire que donc les tempêtes, on va dire, augmenteraient en sévérité ou en intensité. Donc ce travail a, encore une fois, recensé beaucoup de types d'extrêmes, donc les sécheresses en sont un. J'aime bien montrer ce type aussi donc de graphe ici. Donc là, c'est un recensement, c'est la sévérité des sécheresses en fonction en fonction du temps, avec des périodes où, en gros, toutes les 5-8 ans, une sécheresse arrivait. On voit ici un moment de l'histoire où on va dire une pause dans les sécheresses, mais ce que l'on voit, c'est qu'ici, il n'y a pas forcément d'intensification particulière, alors que, quand bien même que donc, l'on sort ici du petit âge glaciaire. Donc, on peut essayer de relire et de revisiter un petit peu ce que nous n'avons pas eu le temps de faire, d'où le caractère multidisciplinaire de l'approche. Pour l'instant, on est à de la juxtaposition, tout ce travail, bien sûr, nécessiterait une revisite, bien évidemment, avec un œil croisé, cette fois-ci, des historiens des climatologues. Alors, l'autre question qui se pose, c'est on a besoin d'avoir, de mieux connaître la distribution spatiale des événements extrêmes, et en particulier les conséquences que ça. Alors, derrière, c'est pernicieux. Hein, je vais vous quand même raconter un petit peu cette histoire. Mais c'est bien évidemment, quel est le bon réseau pour détecter les événements extrêmes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le bon réseau? Pour Météo France, ça veut dire qu'il faut supprimer des stations. Les contraintes budgétaires obligent. Pour les assurances, ça veut dire, est-ce que l'on est capable d'attribuer véritablement ce type d'observation à un extrême? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rembourser ou pas? Donc, il y a ici, encore une fois, un regard croisé. Mais ce sont nos mathématiciens du GIS qui s'y sont attelés, donc dans le cadre du projet Paper. Et donc, ici, partant de l'ensemble donc, du réseau Météo France, donc 331 stations ici pour ce cas. Donc, ce n'est pas l'ensemble du réseau, c'est une partie du réseau, c'est les stations dont on disposait les plus longues mesures. Eh bien, donc à partir de ce réseau, en gros, donc il y avait l'échantillon était divisé en deux, un échantillon pour caler la méthodologie basée sur la théorie des événements extrêmes et un autre échantillon pour pouvoir justement évaluer et travailler sur le réseau optimal. Ça, c'est donc la carte qui est sortie donc de ces études. Je ne vais pas vous rentrer en détail. D'abord, j'en serais bien incapable de rentrer comme ça sans une lecture très approfondie du sujet, parce que c'est quand même très mathématique tout ça. Et donc, vous montre ici la carte des stations que l'on pourrait éventuellement supprimer pour pouvoir, tout en n'affectant pas l'attribution d'une mesure à l'existence d'un événement donc, extrême. Ici, ce sont les extrêmes de mémoire, ce sont les extrêmes de vent. Et donc, ce que l'on voit, ce à quoi on pourrait s'attendre, ici, vous voyez que le réseau est le plus dense, bien sûr, au sud de la France, dans la région méditerranéenne, qui est la région aussi la plus complexe, avec un relief assez varié. Et puis, vous voyez que donc, le nord de la France est un petit peu moins dense, et pourtant, c'est au nord de la France. Donc, plus le point ici est noir, plus il est foncé, plus c'est une station qui revient de façon régulière dans le fait qu'on puisse la retirer, finalement, du dispositif pour pouvoir... tout en gardant la qualité du réseau pour pouvoir détecter ces événements extrêmes. Donc ça, ce sont donc des méthodologies qui ont été élaborées, qui peuvent permettre aussi de dimensionner le bon réseau pour pouvoir étudier, analyser et détecter les événements extrêmes. Alors, quelles sont les échelles spatiales et temporelles? Je vous ai expliqué dès le début même que regarder une canicule d'un point de vue de son extension spatiale, de sa durée, ce n'est pas la même chose que de regarder des précipitations. Donc ici, c'est ce que je vous montre. Donc là, c'est une étude, une carte que je vous ai déjà montrée. Vous voyez ici l'extension des canicules classifiées, donc classées dans ce qu'on appelle les classiques... Les canicules donc d'Europe occidentale. Vous voyez donc l'extension spatiale que cela couvre. Et ici, donc par opposition, je vous montre le caractère très local. Donc ici, ce sont des cyclones, les cyclones méditerranéens. La Méditerranée est la région la plus cyclogénétique au monde. Alors, ce ne sont pas des cyclones tropicaux avec leur taille, avec une taille importante. Ce sont des plus petits cyclones, mais par contre, ils sont très présents. Celui que tout le monde connaît, c'est le Mistral. Hein, c'est le cyclone le plus connu et le plus récurrent. Et vous voyez qu'ici, par exemple, dans un modèle de climat global, avec une résolution donc, qui fonctionne avec une résolution de 200 km, eh bien, on est incapable de détecter un cyclone donc dans cette simulation, alors que si l'on va regarder ça dans un modèle de climat régional, donc avec des échelles ici de 10 km, eh bien, on est capable de voir, de détecter et de commencer à compter. Alors ici, c'est la vorticité, donc c'est la vitesse finalement à laquelle le tourbillon tourne. Eh bien, vous voyez qu'ici, on est capable de détecter finalement ces événements, alors que lorsque la maille est trop grande, le phénomène est trop local pour pouvoir être détecté. Alors justement, ça amène à des questions, encore une fois, méthodologiques. Hein, c'est quels sont les bons outils pour mieux représenter ces phénomènes-là. Donc ici, pour juste le caractère frappant de visuel, c'est la topographie, donc le relief que l'on peut sortir d'un modèle de climat global. Et ici, c'est donc le même relief. Donc ici, on a une résolution typiquement de 200-300 km. Et ici, nous avons donc cette fois-ci le relief issu d'un modèle climatique régional à 20 km de résolution. Donc bien évidemment, on voit beaucoup mieux les reliefs, on voit beaucoup mieux les transitions terre-mer. Ici, je ne parle pas encore d'occupation des sols, d'usage des sols, mais bien évidemment, toute la partie physiographique est bien évidemment bien mieux représentée, et on peut du coup s'attendre forcément à ce que certains phénomènes soient mieux représentés. Donc ici, je vais absolument pas rentrer dans les détails. Donc un certain nombre de méthodologies. Alors les méthodologies de désagrégation, sont ici de deux sortes, hein, qui ont été étudiées. Donc dans deux projets, hein, le projet Regina essentiellement pour les approches statistiques et le projet MorseMed pour les approches plutôt dynamiques. Donc soit une désagrégation de type dynamique, c'est-à-dire qu'on utilise tout simplement un modèle climatique, mais avec une résolution plus fine, avec des équations aussi adaptées à la résolution, au caractère plus fin de sa maille. D'une part, donc ça c'est la désagrégation dynamique, et puis la désagrégation statistique qui permet finalement de relier sur la base d'observation et de caler des modèles statistiques pour pouvoir descendre, désagréger donc d'une échelle assez grossière vers une échelle fine, donc à l'échelle de la station. Donc ici, des travaux ont été réalisés montrant la valeur ajoutée, bien évidemment, de ces techniques de désagrégation pour représenter les extrêmes. Ici, ce sont les extrêmes de vent, ici les extrêmes de température, ici les extrêmes de pluie. Ce que l'on regarde, c'est donc plus on s'approche ici de 5, on regarde des événements qui ne dépasse pas 5% d'occurrence. Donc, si plus on s'approche de cette ligne magique de 5, eh bien, meilleure est la technique de désagrégation. Et là, sans rentrer dans les détails, donc des études, on regarde bien en profondeur, de façon quantitative, la valeur ajoutée des différentes techniques pour pouvoir mieux représenter donc ces extrêmes. Alors, quels sont les mécanismes en jeu? C'est-à-dire, si on va regarder ça d'un point de vue beaucoup plus processus, hein, mécanistique des choses, on a essayé aussi d'avancer sur la façon dont les processus sont couplés. On peut imaginer que une canicule sera d'autant plus importante si on est en période d'aridité, si le sol est sec, et donc les interactions entre la biosphère, l'atmosphère peuvent devenir donc importantes pour déterminer pour forcer certains événements extrêmes. De même, dans la région méditerranée, est-ce que la mer Méditerranée joue un rôle important donc dans la formation des précipitations intenses qui se forment sur nos côtes. Donc dans le cadre du projet MorseMed, qui a été ensuite poursuivi dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle MedICC Bio, eh bien, nous avons couplé un certain nombre de modèles déjà existants donc dans le consortium GIS, donc que ce soit un modèle d'atmosphère, un modèle d'océan, un modèle de biogéochimie marine, un modèle de végétation et d'hydrologie, un modèle de chimie. Eh bien, tous ces modèles ont été couplés donc à des échelles fines pour pouvoir regarder finalement quels sont le rôle des processus, les interactions entre les différents compartiments du système Terre sur le déclenchement de ces événements extrêmes. Donc là, ce sont quelques résultats qui ont été obtenus. D'une part, sur les précipitations extrêmes. Donc là, ce sont des... à chaque fois, ce que je vais vous montrer, finalement, c'est la différence entre le modèle couplé, le modèle couplant, par exemple, l'océan et l'atmosphère, avec le modèle atmosphère seul. Et donc, ici, ce que je vous montre... Alors, on ne va pas tout regarder, on va juste regarder ces deux panneaux-là. Ici, sont tout simplement les précipitations. Donc, c'est un cas cévenol, hein, bien classique, d'automne. Donc ici, nous avons la distribution des précipitations obtenues par le modèle, le modèle d'atmosphère sol. Et lorsque l'on va coupler ce modèle avec donc un océan interactif, ici, je vous montre la différence qu'il existe entre le champ de précipitation obtenu par le modèle couplé et le modèle forcé. Et on voit ici un décalage des précipitations. Donc on a un dipôle rouge et bleu ici qui montre essentiellement que les précipitations ici sont décalées vers la zone rouge et donc de plusieurs dizaines de kilomètres et donc révèle ici l'impact. Alors derrière, tous les processus ont été analysés et compris, donc de l'interaction qu'il existe entre le compartiment terre et océan et le compartiment air dans la formation et la modulation de ces précipitations intenses. Donc on a même regardé, je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, ce que statistiquement on était capable de sortir de tout ça. Donc là on a regardé cette fois-ci non pas un seul événement, mais beaucoup beaucoup d'événements sur toute la côte, encore une fois sur tous les événements cévenols. Donc on est parti donc des anomalies de température dans le monde du modèle. On a regardé encore une fois comment ces précipitations étaient affectées, comment elles se déplaçaient, et on a regardé statistiquement eh bien, comment les précipitations ici étaient modulées en fonction des différences de température de la mer. Alors, on a regardé ça dans le monde du modèle, où on a vu de belles régressions linéaires, et puis on a été, du coup, regarder ça, voir si on était capable, du coup, de sortir un diagnostic, mais cette fois-ci observé, à partir des mesures donc, de température de la mer, voir si on pouvait sortir un diagnostic prédictif du rôle de la mer dans la modulation donc, des événements cévenols. Et puis après, on a été regarder ça un petit peu partout. Il y a des endroits où ça marche, quand on voit une belle régression linéaire. Donc dans les Cévennes, ça marche très bien en Espagne. Et puis ça marche un petit peu moins bien en Italie, mais ça aussi, on sait pourquoi. Tout simplement parce que il y a beaucoup moins de convergence de vent. Mais on a été capable donc, de voir jusqu'où donc, l'effet des interactions océan-atmosphère pilotait, en tout cas contrôlait une partie de ces événements extrêmes. On a aussi regardé donc, ce qui se passe entre canicule et sécheresse et le rôle, par exemple, de l'humidité du sol sur les anomalies de température lors de canicule. Ici, donc, c'est un résultat extrait pour la France qui montre... Donc ça, c'est lorsqu'on a 80% ici, c'est 80% du signal d'anomalie de température lors d'une canicule peut être attribué à l'aridité des sols. Et on a certaines régions, donc les régions montagneuses, où c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que finalement, plus le sol sera mouillé, plus l'anomalie de température sera importante. Donc là aussi, on a été capable, bien évidemment, de comprendre d'un point de vue du mécanisme ce qui se passe ici. Mais on voit que, donc en moyenne, on a à peu près 40%, ce qui était un résultat à peu près connu hein, sur la contribution des anomalies de température, de l'aridité sur les anomalies de température, donc sur l'amplitude des canicules. Mais ici, on a pu vraiment regarder à des échelles fines comment tout ceci était modulé, en particulier dans la région méditerranée, qui présente, on va dire, des caractéristiques un petit peu atypiques du fait de son aridité, on va dire, déjà naturelle. On a pu aussi regarder, en intégrant donc une végétation dynamique, hein, donc c'est-à-dire qui intègre le cycle du carbone dans son fonctionnement, l'impact que d'avoir une végétation dynamique dans la représentation des canicules. Donc ici, nous avons eu deux canicules, en fait, en juin 2003, en 2003, une en juin, dont on ne s'est pas beaucoup préoccupé, parce que finalement, il faisait juste plus chaud que d'habitude, mais plus chaud, c'était encore largement tenable. Et puis, bien sûr, celle d'août. Alors, vous voyez qu'en termes d'anomalie, c'est juste un petit peu plus fort en août qu'en juin. Mais ce qu'on a regardé, c'est l'effet donc, d'avoir une végétation interactive dans un modèle de climat régional. Et vous voyez que lorsqu'on a, donc là, c'est la simulation avec végétation interactive, et là, c'est une simulation avec une végétation climatologique prescrite. Et vous voyez que lors de la première canicule, eh bien, on a un effet atténuateur de la végétation dynamique. Donc l'anomalie de température ici diminue jusqu'à 1 degré localement, c'est-à-dire quand même presque 10% du signal, et puis, alors qu'en août, au contraire, eh bien, cette fois-ci, le fait d'avoir une végétation, on va dire, qui vit dans le modèle, crée donc une anomalie, cette fois-ci positive de 1 degré, ce qu'on explique assez bien avec l'évolution de la végétation, donc le cycle phénologique de la végétation dans le modèle, liées à, aux sécheresses printanières qui ont précédé ces canicules de 2003 et qui a fait qu'une végétation abondante s'est créée de façon précoce, a permis donc de refroidir l'atmosphère pendant cette période-là. Et au contraire, en août, toute la végétation qui s'était créée de façon précoce eh bien, était morte et donc ne contribuait plus à refroidir l'atmosphère. Alors, on rentre dans la dernière question, c'est comment détecter et attribuer les extrêmes au changement climatique. Alors, je ne peux pas dire qu'il y ait eu... On n'a pas été jusque-là aussi loin qu'on aurait voulu, mais je crois que c'est, on est vraiment dans les prémices de, à la fois méthodologiques, hein, bien évidemment, et puis le recul en termes aussi de données qui nous permettent maintenant de traiter de façon plus claire ça. Mais il y a eu donc là aussi hein, les mathématiciens du GIS qui se sont attelés à développer des techniques, et là aussi, dont je serais incapable de vous donner vraiment les détails, mais qui, en partant sur un indicateur donc, de changement, donc comment ça se passe en fait, ici, donc, ce sont les températures. Donc on a la température qui, là, on en observe l'augmentation depuis déjà un certain nombre de décennies, donc ça, c'est un signal de changement climatique qui est assez clair, mais donc, est-ce que s'il fait plus 1 degré donc par rapport à il y a 100 ans, est-ce que ça veut dire qu'on aura plus d'événements chauds extrêmes? Donc là, c'est la question entre le signal tendanciel et véritablement l'impact que ça a sur les canicules. Donc là, le travail a consisté à supprimer justement cette part tendancielle et à ne garder que les variations, on va dire, à haute fréquence. Hein, et puis, regarder s'il y avait, par contre, un signal aussi tendanciel sur ces phénomènes extrêmes. Et donc, des méthodologies ont été élaborées dans le GIS, donc, qui est basée sur l'entropie pour la détection des changements dans les extrêmes climatiques. Et donc, ici, ce que l'on montre, donc là, c'est sur la station de Montsouris, à Paris. Ça, c'est la période de référence. Ici, donc sur lequel le système est calé, et puis donc ce diagnostic plus il devient fort, plus plus il y a une différence entre cette période ici et cette période là. Ici, c'est le niveau de confiance, c'est-à-dire qu'il faut que la courbe noire excède la courbe pointillée pour qu'on puisse dire un changement existe entre cette période ici et cette période. Donc là, c'est une vision temporelle des choses. Et ils ont aussi donc, cartographié ça sur, on va dire, la France, l'Allemagne jusqu'à l'Italie. Enfin, ils ont pris quelques stations. Et donc, plus le cercle est important, plus un signal de changement a été détecté ici sur la période. Voilà, donc permet de cartographier finalement le changement perceptible des extrêmes attribuable à une tendance de température. Alors, je finirai avec quelques réflexions hein, au-delà du GIS, mais peut-être qu'il faut que je finis rapidement. Donc, quelles ont été les forces là-dedans? D'abord, il y avait quand même beaucoup de gens qui travaillaient sur ces problématiques-là, dans des disciplines différentes. Et donc, je pense qu'on a pu sortir, on va dire, le meilleur probablement de ces groupes durant la période du GIS. On a développé, et ça c'est un élément que j'ai beaucoup parlé à Sylvie ici, je pense que la force du GIS a été capable de financer des outils, et des outils voilà, collaboratifs, c'est-à-dire des outils où on pouvait rassembler les communautés, et ça je pense que ça reste un élément structurant fort du GIS, c'est non seulement de l'incubation, mais c'est la production d'outils. Ce n'est pas facile de se faire financer la production d'outils, surtout en interdisciplinaire. Et donc, je pense que ça, c'est un élément extrêmement fort du GIS. Alors, il a essaimé beaucoup de projets, mais ça, je n'en reviendrai pas. Et donc, il y a eu une approche autour des extrêmes, à la fois bottom-up et top-down, mais justement, donc ça, je reçois maintenant la partie faiblesse, pas de façon intégrée, c'est-à-dire qu'on est resté encore trop multidisciplinaire. On n'a pas eu encore le temps d'avoir une réanalyse un peu croisée de tous ces résultats de façon en associant toutes les disciplines. Il y avait des choses qui manquaient, forcément, mais je ne vais pas poursuivre là-dessus plus en détail. Les perspectives qui ont été pensées pour la suite, hein, c'est poursuivre sur la détection, donc sur la détection et l'attribution. Donc ça, c'est un point qui reste vraiment important. Le deuxième point, c'est on parle beaucoup de changement climatique, mais il y a aussi des changements environnementaux qui contribuent aux modifications donc régionales. Donc, quelle est la part, par exemple, des contributions du changement climatique par rapport à des changements d'usage des sols. Donc là, je ne vais pas analyser la figure, mais ce sont déjà des travaux qui ont été initiés par le GIS, qui ont débuté. Et enfin, le dernier point, qui est donc enfin de combiner un petit peu cette approche top-down donc qui étudie les impacts locaux des événements extrêmes avec une approche bottom-up qui partent essentiellement de la vulnérabilité socio-économique du système pour pouvoir pour définir de façon donc justement pour pouvoir la vulnérabilité socio-économique à ces événements extrêmes, avec l'idée ici, de façon conjointe, de définir de façon plus éclairée donc des stratégies de gestion de risque dans un contexte de changement climatique. Et là aussi, je peux dire, c'est un échec forcément, mais donc il y a un projet qui avait été soumis au premier collage 2020 exactement sur cette thématique-là, donc largement inspiré par le GIS, puisque le GIS était le coordinateur, c'était moi, qui n'a pas été financé, passé juste sous la barre. Donc un petit, mais en tout cas, voilà ce que le GIS a pu essaimer aussi comme projet. Voilà, et je m'arrête là.